Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mercredi, nous sommes le 6 septembre. Quatre écoles lyonnaises touchées par une pollution de l'eau au plomb, et notamment les nouvelles écoles ouvertes récemment par la ville. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. Gros plan également sur le collège Jean Mermoz, classé en réseau d'éducation prioritaire en zone REP dans le 8e arrondissement. Il peut toutefois se targuer d'avoir retrouvé une certaine attractivité. Reportage complet dans cette édition. La visite hier du ministre du Commerce extérieur Olivier Becht pour notamment présenter le plan Oser l'export. Interpol va agrandir son siège à Lyon, c'est officiel. Et puis la canicule qui se poursuit, 35 degrés prévus cet après-midi à Lyon avec quelques conséquences sur la pollution et les allergies.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mais d'abord, cette affaire, trois agents de sécurité reconnus coupables de non-assistance à personne en danger après la mort d'un SDF. Un sans-abri avait été retrouvé mort le 23 décembre dernier aux abords du centre commercial de la Part-Dieu, dans une coursive située entre le centre commercial et la bibliothèque. Les causes de la mort, une intoxication et une détresse respiratoire aiguë. Les agents de sécurité avaient extrait ce sans-abri à d'une issue de secours pour le transporter dans la rue et le déposer à même le sol. Jugés le 7 juillet dernier, ils ont été condamnés hier à 3 ans de prison avec sursis, conformément aux réquisitions du ministère public. Ils ont décidé de faire appel. Quatre écoles lyonnaises sont touchées par une pollution de l'eau au plomb. Frida Kahlo dans le 7e, Eugénie Brasier dans le 2e, Wangari Maathai à Gerland et John Fitzgerald Kennedy dans le 8e. D'après la ville, les enfants peuvent utiliser l'eau pour se laver les mains. Les investigations se poursuivent pour résoudre cette situation car l'eau n'est pas buvable. Une situation déjà vécue l'année dernière à l'école Fulchiron dans le 5e arrondissement, elle aussi contaminée au plomb. En attendant un retour à la normale dans les 4 établissements, des bouteilles d'eau sont mises à disposition des enfants.
Lyon Demain, idée en partage.
Classé en réseau d'éducation prioritaire, REP, le collège Jean Mermoz dans le 8e arrondissement de Lyon peut se targuer d'avoir retrouvé une certaine attractivité. La métropole compte investir 32 millions d'euros pour cet établissement et pour l'agrandir. Bruno Bernard, président du Grand Lyon.
On est sur un collège à taille humaine qui a des résultats excellents, des réussites au brevet qui montent. On a, grâce à une option art plastique, pu permettre de retrouver une mixité plus forte que dans le trou de collège. Donc c'est une réussite et c'est un exemple à suivre. C'est le vrai sujet, comment apporter plus de mixité dans nos collèges. C'est que pour donner l'attractivité à un collège, il faut d'abord une équipe enseignante de qualité. Sans ça, on ne peut pas y arriver. Et il faudrait arrêter de mettre toujours les enseignants les moins expérimentés dans les collèges les plus difficiles. C'est un sujet national. On a donc besoin d'un principal, une équipe ressoudée. Mais on a aussi besoin d'attractivité par des options, ici d'art plastique, par aussi d'autres atouts que peut avoir un collège. Les régies exemplaires pour les cantines qu'on a mis dans nos 3 derniers collèges fonctionnent très bien et sont attractives. Donc il faut s'inventer des solutions pour arrêter la fuite vers le privé et avoir des collèges où la mixité n'est plus, ce qui est assez catastrophique pour tout le monde.
Le collège Jean Mermoz attire désormais quelques élèves hors secteur, ce qui prouve son attractivité. Il faut dire que plus de 90% des troisièmes ont réussi leur brevet l'an dernier, plus de 60% ont poursuivi en lycée général et technologique. Comment développer l'attractivité d'un collège? Nous avons posé la question à François Guillochet, qui est le principal du collège Jean Mermoz.
C'est d'abord un travail pédagogique. Il faut que les élèves apprennent. Donc c'est un gros travail d'expertise de la part des enseignants, du personnel éducatif, pour faciliter les apprentissages. C'est aussi proposer différentes activités qui viennent enrichir les parcours scolaires, par exemple, avec une classe en art plastique, mais c'est aussi des créneaux pour ceux qui préfèrent le sport ou ceux qui préfèrent les sciences. Et c'est également l'installation d'un bon climat dans l'établissement. C'est-à-dire que les élèves se sentent parfaitement en sécurité et apprécient les relations qu'ils ont avec les adultes et leurs camarades, et que les parents apprécient aussi les relations qu'ils ont avec l'école.
Comment on développe la mixité, l'inclusion?
Alors, ce sont deux choses un peu différentes. Quand on parle d'inclusion, on parle souvent plutôt d'élèves qui sont porteurs d'handicap, alors handicap physique, cognitif, voire, comme on le disait, pour nos élèves qui arrivent de l'étranger et qui donc ont un handicap au niveau de la langue. L'inclusion, donc, là, c'est d'essayer d'adapter sur quelques moments des séances d'apprentissage bien spécifiques pour ces élèves-là, pour que tout doucement, ils puissent intégrer les classes dans lesquelles ils sont inscrits pour y passer le plus de temps possible. La mixité sociale, elle, c'est répondre aux besoins de familles qui ont, pour leurs enfants, de l'ambition scolaire. C'est aussi proposer un certain nombre de services, comme une cantine scolaire. Quand les deux parents travaillent, c'est indispensable. Donc, ça a été un challenge ici. aussi, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Et puis, c'est d'assurer aux parents que les élèves, quand ils vont venir au collège, ils vont trouver tout ce qu'il faut pour réussir et pour pouvoir suivre les parcours qu'ils ambitionnent.
Il y a une volonté de notre part aussi de développer le côté participatif. Ça va se matérialiser comment concrètement ?
Ça se matérialise déjà, comme dans tous les établissements, on a ce qu'on appelle des conseils d'administration, par exemple, où on va trouver à la fois le personnel, mais à la fois les usagers et les élèves, qui vont prendre part aux grandes décisions d'un établissement scolaire, qui vont aussi faire part de propositions. Et après, il y a plusieurs dispositifs, j'en ai parlé, comme le budget participatif ou Notre École Faisons-le Ensemble, qui proposent en fait des financements pour différents projets qui vont être le résultat de l'émergence d'idées de toute la communauté, le personnel, les élèves et les parents, de façon à ce que le collège soit encore plus agréable à vivre et qu'il permette encore plus aux enfants de réussir. Donc ça, c'est un gros travail de dialogue qui prend beaucoup de temps, qui nous demande aussi de faire preuve de beaucoup de pédagogie pour expliquer tout ce qu'on peut faire et à quoi ça sert. Et ensuite, il faut qu'on s'entende et qu'on arrive sur un projet commun.
Un partenariat a été mis en place avec la Fondation Richard. 140 jeunes de 6 à 20 ans sont accueillis au centre d'éducation motrice où ils reçoivent une formation scolaire et professionnelle ainsi que des soins de rééducation. Le partenariat avec le collège voisin vise à accueillir une quinzaine de jeunes en situation de handicap en demi-groupe dans des classes de l'établissement. Christophe Valisco, directeur du centre d'éducation motrice de la Fondation Richard.
Ça permet une inclusion qui n'est pas totale, mais qui est déjà intéressante avec d'autres jeunes du collège, puisqu'ils peuvent se croiser dans des projets spécifiques, alors que ce soit des projets au niveau de la musique, au niveau des arts plastiques, ou d'autres projets qui se mettraient en place, mais aussi se croisent au niveau des récréations et ils peuvent se côtoyer. Et on a un partenariat, une inclusion inversée, c'est-à-dire que des jeunes du collège qui n'ont pas de cantine viennent au self de la Fondation Richard. Il y a deux groupes d'une vingtaine de jeunes qui viennent, qui font à midi et à 13h au self de la Fondation Richard. Et donc là, on a ce partenariat qui est en place maintenant depuis plus de 2 ans, je crois même 3 ans, en tout cas pour la cantine, et puis les classes d'enseignement externalisé, les unités d'enseignement externalisé, il y en avait une il y a un an quand je suis arrivé, et là maintenant, l'année dernière et cette année, on en a 2.
On peut mesurer des résultats, on peut mesurer ça concrètement ?
Oui, bien sûr, parce qu'il y a un intérêt pour les élèves à aller au collège, à être comme tout un chacun, même si effectivement, ils sont sous la responsabilité, on va dire, des éducateurs et des enseignants de la Fondation Richard, mais je pense que c'est pour eux un plus de pouvoir accéder à l'enseignement dans un collège, comme tout enfant et comme tout jeune.
Mève Lutchebrou est quant à elle professeure d'art plastique. Elle coordonne aussi la classe à horaires aménagés d'art plastique CHAP de l'établissement, créée il y a 4 ans. 60 élèves sur les 300 que compte le collège disposent de 2 heures supplémentaires d'art plastique chaque semaine. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Mève Lutchebrou.
Nous avons notre salle d'art plastique dans laquelle l'ensemble des élèves passent quotidiennement. Je tiens à le préciser puisque en fait toutes les recherches que nous approfondissons avec les élèves de CHAP sont visibles par les autres élèves qui passent de cet atelier, on va dire, et qui découvrent, qu'ils observent au fur et à mesure de la construction et qui représentent une vraie motivation aussi pour l'ensemble d'autres élèves. Au fond de la salle, on a la partie modulable en forme d'atelier pluritechnique, on va dire, où les recherches des élèves parfois restent sur place, continuent à progresser. Donc les autres élèves, ils viennent une fois par semaine d'une heure pour les arts plastiques, puissent aussi voir comment ça se passe de façon plus approfondie, voir, ils ont aussi envie d'aller au-delà d'un cours d'art plastique, participer à ces genres de pratiques.
Qu'est-ce que ça leur apporte concrètement de participer à cet atelier ?
Alors, nous travaillons avec un enseignement dans une forme différente. On apprend différemment par le biais des partenariats, par des moments d'intervention artistique, des rencontres. On sort de la classe, c'est très important. On sort de la classe, les élèves vont à la rencontre du monde, à l'extérieur. On va visiter des musées, on découvre des ateliers d'artistes. Donc, les élèves s'ouvrent au monde, ils vont développer des compétences, écoutent, mais aussi apprennent à parler de leurs recherches, puisque c'est leur vécu. Ils sont acteurs, donc du coup, ils peuvent parler, rendre compte à leurs camarades, partager leur expérience. Et ce qui joue beaucoup aussi sur la cohésion d'équipe du collège, voire même de la quartier, parce que les parents, ils sont aussi des acteurs importants. Et donc, ils se projettent aussi dans l'avenir de cette façon-là. Par exemple, au niveau du lycée, nous avons le lycée Lumière qui est avec son fort enseignement artistique et à leur destination, ou lycée Juliette Récamier qui est pareil avec un enseignement spécialisé en art plastique. Donc ils se projettent et ils ont envie de réussir. C'est un dispositif de réussite, de tâtonnement, de l'expérimentation et aussi d'en parler. Parler, développer ses compétences langagières qui aujourd'hui nos enfants ont besoin dans tous les domaines de leur quotidien, de leur professionnalisme, de leur voilà.
On a l'impression que dans ce collège il y a effectivement l'enseignement, je dirais, traditionnel et puis il y a cet atelier CHAP. Hein.
Tout est en équipe parce que en fait ces classes horaires aménagées, les élèves donc de 15 à 20 élèves qui sont issus d'autres classes. Donc nous avons 12 classes dans le collège et l'ensemble des élèves qui viennent en CHAP sont implantés dans les autres classes. Donc c'est-à-dire que ces élèves qui réussissent dans ces genres de projets, ils vont retourner dans leur classe, ils vont devenir moteurs dans les apprentissages des autres. Notamment les arts plastiques, c'est un domaine dans lequel nous travaillons un peu de tout. Un petit peu histoire-géographie, un petit peu de mathématiques, un petit peu de sciences, mais différemment, en prenant d'autres chemins par le biais de pratiques artistiques et par l'expérimentation. Donc les élèves apprennent différemment. Donc du coup, ils ont une autre façon aussi d'aborder l'apprentissage et de le transmettre aussi par groupe, par, comment on appelle ça, tutorat, par échange auprès de leurs collègues élèves. Donc nous travaillons en équipe avec l'équipe d'enseignants, on se concerte, ce qui se passe en CHAP, c'est directement en relation avec aussi ce qui se passe dans les autres classes. Moi, j'ai certes soutien de mes collègues qui me permet aussi de faire exister cette classe, de coordonner aussi les élèves, les garder dans une motivation constante. Donc, tous les professeurs reconnaissent, travaillent pour le CHAP et la CHAP travaille aussi pour l'ensemble des apprentissages de l'ensemble des matières. Donc, c'est vraiment une petite, si je peux dire, une sorte de famille qui s'est construite en courant de ces 4 années où ça s'est développé petit à petit et qu'on a les 4 niveaux aujourd'hui conscients de leur chance et de leur engagement.
Mevlut Chevreau, professeur d'art plastique au collège Jean Mermoz dans le 8e arrondissement. Les travaux d'extension de l'établissement sont prévus à l'horizon 2025. Olivier Becht, le ministre du Commerce extérieur, est venu à Lyon hier pour présenter le plan Oser l'export. Ce dernier a pour ambition d'atteindre les 200 000 entreprises exportatrices d'ici 2030, contre 150 000 aujourd'hui. Aller à l'export nécessite une préparation. La création du VTE, volontaire territorial à l'export, a été évoquée. Il s'agit pour le chef d'entreprise de pouvoir intégrer un jeune en étant aidé par l'État pour l'aider à bâtir une stratégie export. La mise en place d'un accompagnement sur les salons internationaux grâce à un soutien public est aussi mise en avant. Interpol aide les polices de 195 pays à lutter contre la criminalité. Cette organisation, on le sait, est basée à Lyon. Son siège sous haute surveillance est situé sur les bords du Rhône, près du parc de la Tête d'Or. Mais Interpol est à l'étroit dans ses murs depuis de longues années et doit louer des bureaux à proximité. 800 personnes travaillent pour Interpol à Lyon. Le bâtiment, construit en 1989 sur un terrain de la ville de Lyon, était prévu au départ pour seulement 350 personnes. Le projet d'extension, en panne depuis 2015, va finalement pouvoir démarrer. Jürgen Stock, le patron d'Interpol, veut faire de Lyon un hub international pour la coopération policière. Des salles de réunion doivent être créées, ainsi qu'une salle de conférence permettant d'accueillir régulièrement les délégations des 195 bureaux centraux nationaux. L'extension du siège pourrait coûter 50 millions d'euros, 20 millions en plus pour la rénovation du bâtiment actuel. La région et la métropole devraient contribuer chacune à hauteur de 9 millions d'euros. Et puis, conséquence de la canicule, les fortes chaleurs de ce mois de septembre favorisent la floraison de l'ambroisie. Les quantités de pollen dans l'air pourraient atteindre des records. Le risque d'allergie est de niveau élevé pour le Rhône, l'Ardèche, l'Isère et l'Ain. Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévient aussi que la qualité de l'air devrait être dégradée à mauvaise ce mercredi. Il faut dire que les températures attendues sont encore autour de 35 degrés cet après-midi. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain pour une prochaine édition.